C'est le premier vendredi de l'année, disons, après nos séries des fêtes. Et cette année aussi, nous passerons le vendredi en compagnie d'une personnalité scientifique durant une heure. Une heure pour faire connaissance avec notre invité et pour découvrir son monde, son quotidien. Ce matin, nous recevons donc Emmanuelle Giacometti, directrice de l'espace des inventions à Lausanne. Beaucoup d'entre nous la connaissent déjà. Vous l'avez peut-être déjà entendue sur nos ondes. Et Uma Camis, vous nous rafraîchissez la mémoire. Qui est Emmanuelle Giacometti? À part être une lointaine descendante d'un certain Giacometti, je crois.
Alors, Emmanuelle Giacometti est docteur en physique des matériaux. Elle a fait sa thèse à l'EPFL sur un étrange alliage en aluminium, de cuivre et de fer, un quasi-cristal aux propriétés mécaniques, paraît-il, fascinantes. Ça, c'était dans le milieu des années 90.
Oui, ça sonne assez balèze. Hein.
Oui, alors c'est vraiment balèze. Et si Emmanuelle Giacometti est devenue physicienne, c'est parce qu'elle ne voulait pas être chimiste. Alors, c'est une raison un petit peu incongrue, vous en conviendrez. Mais voyez-vous, parfois, il faut une bonne dose de hasard pour qu'une vocation naisse. Et la vocation d'Emmanuelle Giacometti n'était pas de développer des matériaux intelligents, comme le font sans doute beaucoup de ses camarades d'études actuellement. Emmanuelle Giacometti, elle, est devenue, contre toute attente, une pétillante commandante de soucoupe volante.
Soucoupe volante, c'est
vous ne croyez pas, hein?
Pas vraiment, là.
Eh bien, vous devriez. D'ailleurs, son vaisseau spatial est posé au cœur d'un magnifique parc, celui de la Vallée de la Jeunesse, non loin du rond-point de la Maladière, vous voyez, à l'entrée de Lausanne.
Ouais.
Ce vaisseau très spécial se nomme l'espace des inventions. Et grâce à sa soucoupe volante, Emmanuelle Giacometti et son équipe emmènent les passagers en voyage vers un univers à part, hors du temps, vers des mondes où les connaissances se mêlent aux expériences, vers des planètes d'où l'on revient peut-être un peu moins bête, mais surtout avec plein d'étoiles dans les yeux. Car la véritable vocation de notre invité du jour, c'est idéalement et justement faire naître des vocations. Ou en tout cas, d'éveiller la curiosité. Une curiosité face au monde qui nous entoure, mais surtout face à la science et à la technique. Parce que depuis près de 15 ans, Emmanuelle Giacometti se dédie à l'éveil scientifique des enfants. Et ça tombe bien, parce que nous, à CQFT,
on
il faut quand même l'admettre, on est des grands enfants. Alors on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et on est ravis que vous ayez quitté votre vaisseau très particulier pour vous arrêter chez nous pendant une heure.
C'est vrai qu'on est ravis. Bonjour Emmanuelle Giacometti.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous. Directrice donc de cet espace des inventions, lieu d'éveil scientifique dédié en particulier aux enfants, probablement aussi à tous ceux qui ont encore effectivement cette âme d'enfant. Une heure avec nous, comment se passe cette transition? Comment passe-t-on finalement d'une thèse en physique des matériaux à l'éveil scientifique?
Alors je vais faire une petite parenthèse d'abord, parce que vous avez parlé de soucoupe volante et vous savez que les bâtiments dans lesquels nous sommes datent de l'Expo 64. Et en 64, il y avait une soucoupe volante dans les jardins de ces bâtiments. Donc vous n'êtes pas très loin de la vérité. comment est-ce qu'on passe de...
La physique des matériaux à l'éveil scientifique.
Alors, pour ce qui me concerne, un peu par hasard. Le hasard fait parfois bien les choses. Et voilà, durant ma thèse, je me suis rendu compte que la recherche n'était certainement pas ma vocation, que d'autres le feraient bien mieux que moi. Et donc, il convenait de faire autre chose. Et le projet Espace des Inventions m'est un petit peu tombé dessus par un hasard que, a posteriori, je juge très heureux. Et c'est là que tout a commencé.
Et Uma nous le disait, vous ne vouliez pas être chimiste, vous n'aimez pas la chimie.
Alors, disons que toute ma famille est chimiste. Mon papa était chimiste, ma maman, mon grand-papa, mon oncle, ma tante, voyez le genre. Ouais. Et donc, il fallait se distinguer un petit peu du reste de la famille.
Vous auriez pu faire journaliste?
J'y ai pensé. Et puis, de nouveau, l'espace des inventions m'est tombé dessus. C'est des choses qui arrivent.
Aux sculptrices, référence à votre ancêtre.
Alors là, en l'occurrence, je crois que les gènes n'ont pas venu jusqu'à moi.
Non.
Vous êtes un peu sculptrice, hein, quand on voit les expositions, en tout cas, beaucoup d'imagination. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre rôle de capitaine de soucoupe volante?
C'est un travail qui est tellement varié, parce qu'il faut imaginer des choses, il faut imaginer qu'elles puissent plaire au public qui va venir les voir, il faut essayer de se remettre un peu à la place de celui qui va arriver, du jeune ou du moins jeune d'ailleurs, parce qu'on s'adresse pas qu'aux enfants. Et pour leur parler de la partie intéressante de la thématique qu'on cherche à traiter. Donc c'est un travail qui est... Alors je ne suis pas sculptrice, et loin de l'être, mais c'est un travail qui est assez créatif et qui nécessite... de prendre parfois le problème dans l'autre sens que celui avec lequel on le regarde la première fois.
Alors, on parle effectivement d'éveil scientifique des enfants. Pourquoi est-ce qu'il faut les éveiller? Parce qu'on se dit que les enfants sont curieux naturellement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de soutenir cette curiosité, cet éveil?
Alors, les enfants sont curieux naturellement. Il faut la nourrir, cette curiosité. Ça, c'est un premier élément. Et puis, malheureusement, les sciences souffrent souvent d'une réputation de difficultés, de trucs pas intéressants, un peu froids, un peu carrés. Qui vient assez tôt, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. Les maths, ils sont peut-être pour quelque chose, malheureusement. Donc, il faut essayer de modifier à notre modeste échelle cette perception.
Pourquoi ça doit se faire en dehors de l'école? Ça ne serait pas plutôt le rôle de l'école de faire ça?
Alors, ça se fait certainement aussi à l'école, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que l'école est un monde et puis le reste en est un autre. Et voilà, en tapant plusieurs fois sur le clou, il finit par mieux rentrer.
Nous sommes ce matin en compagnie d'Emmanuelle Giacometti dans CQFD, directrice de l'espace des inventions de Lausanne, ce lieu dédié à l'éveil scientifique et technique des enfants. Emmanuelle Giacometti, quelle différence entre la vulgarisation scientifique destinée aux enfants et celle destinée aux plus grands, aux adultes?
C'est pas si différent, en définitive. Une chose qui est importante, c'est que on s'adresse, nous, aux enfants à partir de 7 ans. Ça veut dire que à 7, 8, 9 ans, il y a certaines notions abstraites ou certaines réflexions un petit peu déconnectées du terrain qui sont encore trop difficiles pour eux. Donc, il faut rester dans des choses plutôt concrètes, des choses qui leur sont accessibles. Mais en dehors de ça, il y a finalement pas tellement de différence. On dit toujours, ah, les enfants aiment toucher. Et puis, ben oui, mais les adultes aussi. Hein. Donc, finalement, voilà, la différence n'est pas si grande. Il faut garder quelque chose en se disant, les gens arrivent là, ils ne connaissent pas la thématique, ils ne sont pas des spécialistes du tout. Et donc, il faut commencer à leur raconter l'histoire depuis le début.
Votre public cible, c'est quelle tranche d'âge?
Alors, quand on conçoit les expos, on pense beaucoup aux enfants de 7 et 12 ans.
Oui.
Mais après, il y a des plus grands qui viennent et il y a des adultes qui viennent. Enfin, j'entends que quand on s'adresse à un enfant de 12 ans, quelque part, on s'adresse un petit peu à tout le monde.
Quelle différence il y a entre le métier qu'on fait, nous, autour de cette table à CQFD et le vôtre? On fait un peu la même chose, à votre avis?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, effectivement. Il s'agit d'expliquer à des gens qui sont non spécialistes de quoi il en retourne. Peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans certaines thématiques. Nous, on a affaire à des gens qui viennent passer chez nous une heure et demie, qui débarquent, qui viennent souvent là dans le cadre de leurs loisirs, de leur temps libre. Il faut leur raconter l'histoire dès le début. On peut pas prendre les choses trop loin déjà.
Oui, puis chez nous, on peut pas toucher.
C'est vrai. C'est vrai que c'est une différence importante qui nous cause quelques soucis d'ailleurs, parce que qui dit toucher dit potentialité de casser également.
Ah oui.
Vous n'avez pas ce problème-là?
Non, a priori pas. Non. S'ils touchent, c'est leur poste de radio et malheureusement, on n'en est pas responsable et donc on s'occupe pas des réparations. On parle d'éveil scientifique des enfants. Voilà, des petits Suisses, hein, des petits Helvètes. Est-ce que vous diriez qu'ils sont plus endormis que des enfants d'autres pays en Europe, aux États-Unis, par exemple?
Alors, c'est difficile à dire parce que j'ai pas l'expérience de ça dans d'autres pays du monde. Je pense que les petits Helvètes sont plutôt assez réveillés. Et curieux, enfin, ils ont accès à une éducation qui en moyenne est quand même assez excellente et ben ça aide aussi à ce que leur curiosité, leur envie de savoir soit généreuse.
Mais il n'y a pas si longtemps qu'on se préoccupe de cette culture scientifique pour les plus jeunes.
Il n'y a pas si longtemps, mais ça fait quand même maintenant bien 15-20 ans, donc c'est pas non plus si récent que ça. C'est vrai que c'est les Américains qui sont venus en premier avec cette question-là, mais disons les Européens suivent, et la Suisse, à son rythme, vient pas toujours en premier dans ce genre de choses. Mais enfin, l'espace des inventions existe depuis maintenant 15 ans, il y a d'autres structures comme le Technorama qui sont aussi encore plus vieilles que ça, donc c'est quand même pas non plus... Ça date déjà un petit peu.
Il y a une patte forcément que vous donnez à l'ensemble de vos expositions. Alors vous évoquiez le toucher, donc il y a systématiquement beaucoup d'objets qu'on peut manipuler. Ça c'est notamment une de vos marques de fabrique. Comment vous les concevez, vos expositions?
Alors c'est vraiment, effectivement, le fait de toucher, les manipulations, les expériences, c'est vraiment vraiment là autour de ça qu'on travaille, qu'on cherche toujours à pouvoir expliquer les choses via la manipulation. Ça c'est vraiment très important et c'est ce que les gens attendent de nous maintenant, ceux qui nous connaissent déjà. Et puis une autre chose, c'est qu'on met en scène beaucoup, on travaille beaucoup sur la scénographie, de manière à ce que l'ambiance, que l'atmosphère, que tout ça favorise l'envie. On arrive là, on se dit waouh, il faut qu'il y ait des couleurs, il faut que ça, voilà, que ça soit, que ça pète. Et c'est vraiment un choix qu'on a fait dès le début et sur lequel on est très très exigeant. Parce qu'on pense que justement des gens qui peut-être ont quelques a priori négatifs sur la science, de les mettre tout de suite dans une ambiance, dans un contexte comme ça, visuellement, graphiquement attractif, ça aide à passer la petite barrière de « ouh, ça va peut-être être difficile ».
Et ça demande aussi pas mal de bricolage. Hein. J'ai cru comprendre que vous êtes entouré d'une équipe imagine...
Effectivement, l'équipe, il faut être créatif, mais après, il faut pouvoir réaliser aussi les grandes idées qu'on a. Et c'est vrai que certaines expériences sont des classiques que vous aurez peut-être déjà vues ailleurs. D'autres sont des choses qu'on imagine depuis le début. Ça veut dire que ce sont des prototypes. Et des prototypes qui sont soumis à beaucoup de contraintes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, qui manipulent, parfois juste, parfois faux. S'ils manipulent faux, c'est qu'on a mal fait de notre travail, mais enfin, néanmoins, c'est pas simple de concevoir des expériences qui peuvent comme ça être touchées par les gens tout seuls.
15 ans d'existence, vous avez fait combien d'expositions jusqu'à maintenant?
Il me semble que celle qui est présentée actuellement, L'œil nu, elle doit être la 9e.
Et les idées viennent d'où?
Les idées viennent de nous, de l'équipe, des envies qu'on a, des rencontres qu'on fait, des choses qui se passent un petit peu. C'est un travail de réflexion, de création. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait envie de traiter un thème. Sinon, on le fera pas bien. Donc ça vient. Je sais pas. Chaque fois, c'est un petit peu une aventure qui tombe de quelque part.
La physique quantique, c'est pour quand?
Alors, il y a quand même des thématiques. Je disais tout à l'heure que quand on s'adresse à des enfants, il y a un niveau d'abstraction au-delà duquel on peut pas aller. Je pense que la physique quantique serait pas un très bon thème pour l'espace des inventions, malgré tout. Il y a quand même des prérequis que nos jeunes visiteurs n'ont pas pour la grande
majorité. Même les grands visiteurs.
Je ne voulais pas le dire.
Voilà, vous pouvez le dire.
Alors, vous avez une idée et puis une envie. Ensuite, comment ça se passe? C'est facile de discuter avec des scientifiques, puis surtout de leur expliquer qu'on va essayer de simplifier la matière sur laquelle eux, ils consacrent leur vie. Comment on fait ce dialogue-là?
C'est pas la partie la plus facile, mais la grosse partie de la réflexion se fait entre nous, notre équipe, hein, parce que c'est nous qui savons ce qui est possible de faire dans une exposition et ce qui est pas possible de faire dans une exposition. Les scientifiques peuvent valider les contenus, peuvent nous dire si ce qu'on dit est juste ou pas juste, mais c'est pas eux, c'est pas leur job de savoir comment on va pouvoir le mettre en scène et comment on va pouvoir le présenter. Et donc les discussions qu'on a avec les scientifiques sont plutôt liées à la validation des contenus qu'à vraiment la réflexion sur ce qu'on va dire et comment on va le dire et quelles expériences on va proposer.
Qu'est-ce qui est pas possible, par exemple?
On parlait de la physique quantique il y a quelques instants. Je pense que ce serait vraiment pas adapté. Il y a des thématiques qui sont trop théoriques, trop abstraites d'une part. Et puis après, il y a des impossibilités simplement physiques. Par exemple, faire une exposition sur l'eau, pour ceux qui sont déjà venus à l'espace des inventions, ce serait à peu près impossible, au sens où si on fait une exposition sur l'eau, il faut de l'eau. Et l'eau, je vous laisse imaginer le genre de problème pratique que ça peut poser dans notre contexte. Donc on fera pas, parce que tout va être mouillé, parce que tout va commencer à moisir, parce que tout va devenir sale, enfin vous imaginez le truc. Donc on pourrait le faire à l'extérieur, mais dans l'espace des inventions, c'est pas possible. Donc il y a d'une part la thématique, l'aspect de trouver une thématique qui soit intéressante pour les enfants et accessible, et puis par ailleurs après les possibilités physiques vraiment de pouvoir faire des manips qui sont réalistes dans notre cadre.
L'argent vient d'où?
L'argent vient de plein d'endroits. On est une fondation privée, mais on est soutenu par la ville de Lausanne, par le canton, par le PFL, par l'université de Lausanne, par la HESSO, par Lausanne Région et par des mécènes et sponsors privés pour les expositions.
Et trouvez-vous, Emmanuel Giacometti, qu'il y a assez d'argent dédié justement à cet éveil scientifique en Suisse?
Il y en a jamais assez. Non, mais c'est vrai que la culture scientifique est une culture assez jeune en Suisse. Elle n'est pas toujours reconnue par les milieux dits culturels classiques. La culture scientifique, c'est pas de la culture. Donc c'est pas toujours facile de trouver des financements. Mais il y a quand même une prise de conscience que c'est important de rendre les sciences et les techniques plus familières au public en général.
Pour accompagner ensuite des vocations, c'est ça plus tard, susciter ces vocations.
Pour accompagner des vocations d'une part, mais aussi simplement pour que les gens comprennent, sachent comment fonctionnent les outils qu'ils utilisent tous les jours, leur voiture, leur téléphone portable et je ne sais quoi encore. Enfin, c'est notre monde dans lequel on est, un monde ultra technologique. Si on n'y connaît rien, à un moment donné, ça pose un problème.
Oui, parce que c'est souvent contre-intuitif, la science.
C'est souvent pas aussi simple que ce qu'on croit. Et puis, c'est souvent caché. Dans votre voiture, vous tournez la clé, mais vous voyez rien de ce qui se passe. Idem dans votre téléphone portable. Donc, on cherche pas non plus à vous montrer les choses. Donc, à un moment donné, on a plein d'outils qui sont complètement étrangers.
Sarah, vous dites contre-intuitif, vous aviez une idée particulière en tête. Bon, il y a le moteur de la voiture, effectivement, qu'on va fonctionner.
Si je prends deux objets et j'ai en main un bracelet relativement lourd, la petite bonnette du micro.
En mousse, oui.
En mousse, vraiment très 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 légère. Ouais. Et je laisse tomber. Hein.
Allez-y.
D'abord,
oui.
Stéphane, quel est l'objet qui va tomber en premier?
Et ben,
le plus lourd ou
alors, objectivement, le plus lourd, c'est-à-dire votre bracelet.
Et ben voilà. Regardez.
Ils sont arrivés les deux en même temps.
Les deux sont arrivés en même temps. C'est contre-intuitif, Emmanuel Giacometti.
La science, c'est de l'expérimentation. Donc, on a l'intuition au départ. On se dit, ça devrait se passer comme ça. Qu'est-ce que je fais pour savoir si ça se passe comme ça? Je fais l'expérience et puis je constate ce qui se passe et je repose après une hypothèse et je continue. C'est ça la démarche scientifique. Vous avez bien débuté, Sarah.
Et pourquoi ça tombe en même temps?
G, vous avez déjà entendu parler de G. Alors ça, c'est pas très intuitif non plus, cette fameuse accélération terrestre dont on nous parle. On se dit accélération, mais je suis pas... Les enfants, c'est ce qu'ils nous disent, mais j'accélère pas, là, je suis debout, je bouge pas. effectivement, c'est des notions compliquées. Qu'il faut du temps, parfois, pour appréhender, pour digérer. On peut pas tout apprendre en deux secondes et demie, hein.
Et puis, c'est des notions que vous développez aussi en dehors des structures universitaires. Hein. Si on est dans une université, on a accès au labo, on peut faire des expériences, on peut tout montrer. Là, vous êtes vraiment un lieu un petit peu hors du temps, comme dans un parc, loin des universités. Vous êtes approché aussi par des entreprises privées qui pourraient être intéressées à vous financer ou à vous aider, entre guillemets, pour...
Alors, quelquefois, mais si quelques-unes nous écoutent en ce moment, alors je donne mon numéro de portable après l'émission sans problème.
Oui, donc en fait, ça manque.
Vous seriez
ouvert à ça.
Bien sûr. Mais il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait. Après, pour le financer, c'est une autre affaire. Mais la culture scientifique est rarement prioritaire. Donc on trouve que c'est bien, mais en même temps, il y a plein d'autres choses qu'on trouve bien et peut-être plus importantes, malheureusement. Mais ça évolue en même temps.
Vous avez fait une belle année 2014, je crois, 23 000 visiteurs, avec un été qui était pas extraordinairement ensoleillé. Et vous adorez les étés pourris, alors du coup.
Alors, du point de vue professionnel, oui. Du point de vue privé, c'est une autre question. Mais effectivement, la fréquentation des lieux culturels, en général, est assez immédiatement liée à la météo. Et cet été pourri a fait exploser les statistiques de beaucoup de musées et institutions culturelles, en effet, dont l'espace des inventions.
On a posé le cadre de votre approche, justement, de cet éveil scientifique. On va rentrer dans du concret tout à l'heure en évoquant l'exposition qu'on peut voir autour de l'œil actuellement, justement, à l'espace des inventions. Voici une chanson sur la première. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day in advance. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fold. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror of these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being or superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There's a part of my life that would go away. God gives the night, gold lifts the ground. And the sickle is silent in my heart. As one that strives a hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a star. There's like a barbarian still alive. I'm losing. groupe Phoenix et qui chantait If I Ever Feel Better. Merci d'avoir choisi la première 10h43. Nous sommes ce matin en compagnie d'Emmanuelle Giacometti, directrice de l'Espace des Inventions à Lausanne. L'Espace des Inventions où se tient actuellement l'exposition à l'œil nu jusqu'au 25 octobre de cette année. Donc on a encore bien le temps de la voir. Emmanuelle Giacometti, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce thème de l'œil?
Bon, il y a l'aspect d'une part que quand le visiteur est au centre, il est tout de suite beaucoup plus intéressé. Or, la plupart des gens ont des yeux, heureusement pour eux, malheureusement certains ont des yeux qui ne fonctionnent pas bien, et c'est un sens qui est quand même le sens prioritaire dans notre vie. Donc ça nous intéressait d'une part de parler de l'œil et de parler de tout ce qui va avec, c'est-à-dire les couleurs, la lumière un petit peu, la vision. On trouvait que c'était un thème qui était à la fois très très accessible et puis qui permettait beaucoup de choses en termes de manip et de mise en scène, de scénographie.
Alors, j'ai eu la chance de vous avoir comme guide pour cette expo, alors que j'aurais pu la visiter toute seule. Il y a vraiment plein d'éléments à découvrir. Sarah, vous l'aviez vu aussi, hein, ce Ferrer. Et je souligne au passage que le design est magnifique. Moi, j'ai adoré vraiment ce petit œil qui nous regarde d'un peu partout. J'ai appris plein de choses. Tout à coup, il y a des lumières qui s'allument dans le cerveau. On comprend enfin un truc. Notamment, l'œil, c'est aussi la perception des couleurs. Et si on a trois couleurs fondamentales, c'est parce qu'il y a une raison biologique à ça.
Oui, on dit toujours, il y a trois couleurs primaires. Bah oui, ben pourquoi trois, pourquoi pas deux, pourquoi pas quatre? Et en fait, c'est une raison effectivement physiologique. La rétine est composée de récepteurs sensibles à la lumière. Il y a les bâtonnets qui voient tout le spectre du visible en noir et blanc, donc si on veut. Et puis il y a les cônes, où on a trois types de cônes, hein, qui est sensible au rouge, au vert et au bleu. Et c'est parce qu'on a trois types de cônes qu'il y a trois couleurs primaires qui sont définies. Si on avait quatre types de cônes, eh bien on aurait défini quatre couleurs primaires.
Moi, je trouve que c'est fascinant tout à coup de faire cette connexion entre différentes disciplines scientifiques, hein, la biologie et l'optique en l'occurrence. Puis ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il y a très peu de textes à lire. C'était un choix.
Alors ça, c'est une philosophie assez fondamentale à l'Espace des Inventions. C'est qu'une exposition n'est pas un lieu de lecture. Moi-même, j'adore lire, mais un livre dans un bon canapé, ça va très bien. Debout dans une exposition, c'est pas le lieu. Et encore moins à l'Espace des Inventions où les gens s'attendent à manipuler et à faire. Donc il faut un minimum de texte pour expliquer deux ou trois choses, pour donner les consignes. Mais on essaye de les réduire au maximum, sachant que si les gens ont envie d'en savoir plus, ce qu'on espère, eh bien... ils ont 1000 outils à la sortie pour le faire chez eux, à l'école, à la maison, c'est égal. Mais là, on est vraiment dans une dynamique où on est là pour toucher, pour faire des liens entre les mains et le cerveau.
Donc là, c'est une petite pique quand même envers les musées qui nous proposent de lire pas mal de choses lorsqu'on est en leur sein. C'est pas une bonne manière de faire, selon vous.
Je ne sais pas si c'est une pique, mais c'est notre manière de faire, notre choix est de ne pas mettre trop de texte. Après, chaque institution à sa propre ligne de conduite et ses propres volontés. Nous, on a un public qui n'a pas envie de lire. On l'a vu. D'autres institutions ont peut-être d'autres publics qui attendent plus d'informations. Et on en met quand même, hein, des textes et il y a quand même des explications. Mais même avec le peu de texte qu'il y a, je doute que la majorité des visiteurs aient tout lu à la fin de la visite. Par contre, ils auront tout fait.
Parce que c'est vrai qu'on a vraiment envie de faire les expériences. Alors, on va pas tout révéler. Il y a notamment un kaléidoscope géant, un puits sans fond. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et puis, une bague en vrai diamant qui est bien sous nos yeux.
Alors ça,
ça me plaît
aux filles.
Ouais, ça me plaît beaucoup. Elle est bien réelle, mais on peut pas l'attraper.
Eh ouais.
Vous avez envie de nous expliquer pourquoi
la science est trompeuse. Alors, il faut pas expliquer parce que l'explication, une fois qu'on sait, ça perd un peu de sa magie. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'effectivement, l'image de cette bague, qui est une image réelle, elle est juste parfaite. Donc cette bague, elle est là. Et au moment où on veut l'attraper, ben, elle n'est pas là, puisqu'il ne s'agit pas de la bague, mais de l'image de la bague. Mais je ne vais pas
même
vous dire comment cette image
se fait. Je crois que ça
fait.
Reste fascinant, parce qu'elle m'a, elle, Emmanuel oui, m'a
vous
expliqué.
Avez le secret,
on, j'ai le
ouais.
secret, mais.
Ça reste
malgré
fascinant
tout,
parce que cette image, parce que l'image est d'une telle qualité qu'elle représente tellement bien l'objet que même quand on sait que l'objet n'est pas là, on croit quand même qu'il est là. C'est un petit peu comme certaines illusions d'optique où même quand on sait que la barre du haut n'est pas plus longue que la barre du bas, on ne peut pas s'empêcher de la voir plus longue.
Et puis alors, autour de l'exposition, vous proposez aussi des rencontres entre quatre yeux. Ça consiste en quoi?
Alors l'idée, c'est d'accompagner l'exposition par des rencontres avec des chercheurs ou des scientifiques qui travaillent sur des thématiques en lien, en l'occurrence avec l'œil et la vision, et qui viennent avec des expériences, des manips, et qui sont présents pour échanger avec les visiteurs. Donc ils viennent là, au cœur de l'exposition. C'est un peu un plus, un gros plus qu'on propose aux visiteurs. On visite l'expo et en plus on rencontre un chercheur, un scientifique qui vient là avec ses manips et qui explique ce qu'il fait dans son labo au quotidien.
Alors justement, ce dimanche, c'est Jean-François Knebel qui sera cet invité entre quatre yeux, chercheur en neurosciences à l'Université de Lausanne et au CHUV.
Je vous reprends tout de suite. Il viendra effectivement Jean-François Knebel, mais ce n'est pas ce dimanche. C'est celui d'après. Après. Ce dimanche, ce sont des chercheurs de l'EPFL, M. Pauli, qui viendra nous parler des effets caustiques.
D'accord. Et M. Knebel, ce sera donc le 18 janvier, c'est juste?
Je vous avoue bêtement que je n'ai pas les dates en tête, mais vous y regardez sur le site internet.
Sur internet. Oui, bah on va vous demander directement à vous, Jean-François Knebel. Vous êtes invité quand exactement à l'Espace des Inventions?
Alors, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour, nous sommes invités le 25 janvier.
Très bien,
25 janvier. J'aurais dû m'en souvenir.
Voilà, c'est noté. Vous animez donc cette rencontre. Il y aura des enfants, des parents, c'est une espèce d'atelier. Vous allez y faire quoi?
Alors, on a trois petits postes. Le premier, il y a beaucoup d'illusions d'optique. Je vous ai entendu parler des illusions d'optique. Donc, on explique un peu comment le cerveau fonctionne sur ces illusions d'optique. Un deuxième petit poste qui explique comment le cerveau et la vision et la perception sont interconnectés. Puis le troisième petit poste, c'est aussi une illusion d'optique où les enfants vont fabriquer par eux-mêmes leur petit objet qu'ils pourront prendre à la maison. Et puis, c'est aussi une illusion.
C'est facile pour vous, alors vous allez régulièrement participer à des congrès scientifiques, donc vous êtes entre pairs, donc vous pouvez utiliser votre jargon et tout passe, et là tout à coup vous vous retrouvez face à des enfants et à leurs parents. C'est facile comme ça de préparer une telle présentation?
Alors non, c'est je pense le plus difficile dans le travail qu'on fait, le plus intéressant mais le plus difficile, parce que ils ont très souvent des questions beaucoup plus difficiles à répondre que nos pères, comme vous dites. Et souvent pertinentes, donc c'est pas facile de parler à ce jeune public. Surtout que d'un enfant à l'autre, ils perçoivent complètement différemment. Donc on est souvent confronté à dire « Ah, quelque chose marche très très bien », puis d'un coup on le présente et c'est pas tout à fait comme ça. Donc il faut sans arrêt se remettre en question, mais c'est très très intéressant.
C'est important pour un chercheur aujourd'hui de s'adresser au jeune public?
Alors pour moi, je pense que c'est très important, parce que je vous rappelle qu'on est quand même... c'est un peu ce jeune public qui est notre employeur, hein, on est payé par les impôts. Donc c'est aussi un peu restituer ce qu'on fait à ce jeune public et à leurs parents qui payent plutôt les impôts. Donc c'est très important. Puis en plus, dans la formation, genre chez nous, les doctorants, c'est vulgariser, c'est comprendre un phénomène complètement. Donc c'est aussi très important pour eux de pouvoir aller présenter ce qu'ils font, pouvoir voir qu'ils n'ont pas compris, que certaines parties ne sont pas complètement claires et qu'ils doivent l'expliquer de façon simple.
Vous aviez aussi participé, je crois, à l'exposition sur le cerveau qui avait eu lieu à l'Espace des Inventions. Qu'est-ce qui vous plaît finalement le plus dans cette collaboration avec une institution comme cet Espace des Inventions?
Ben, c'est le résultat. On arrive à un résultat qui est magnifique. L'exposition sur le cerveau que vous avez parlé est un résultat, pour moi, était excellente. Mmh. Et on arrive à un résultat qui est avec peu de moyens, parce que Manuel Giacometti ils n'ont pas des moyens infinis, arrivent à faire quelque chose d'assez extraordinaire et de présenter ce qu'on fait de façon très simple.
Mmh. Ça, oui, on parlait des moyens tout à l'heure financiers. Il ne faut pas vous donner de l'argent, parce que le fait d'avoir trop d'argent, après, on est trop à l'aise. Là, il faut trouver l'inventivité, de la créativité avec quelques petits bouts de ficelle, entre guillemets, permettez-moi de résumer la situation comme ça. Mais c'est vrai, non, ça force aussi à plus de créativité, peut-être.
Du manque de moyens naît une certaine créativité. Les contraintes sont toujours source de créativité, dans une certaine mesure, n'est-ce oui. pas? Donc, si nous avions un peu plus d'argent, nous resterions très créatifs, j'en suis sûr.
Merci beaucoup Jean-François Knebel, en tous les cas, chercheur en neurosciences à l'Université de Lausanne au CHUV. On vous suit donc le 25 janvier à l'Espace des Inventions à Lausanne entre 14h et 18h, dans le cadre donc de cette expo L'œil nu, à découvrir jusqu'au 25 octobre. Il y a d'autres rencontres prévues. Alors, vous avez cité celle de ce dimanche, Emmanuel Giacometti.
Et dimanche prochain, il y aura une rencontre avec l'hôpital ophtalmique Jules Gonin qui viendra traiter plutôt alors des aspects médicaux de l'œil et de la vision, cette fois le 18 janvier.
Et en parallèle à l'exposition, il y a aussi des ateliers pour adultes.
Alors oui, l'espace des inventions est un lieu pour le jeune public, mais pas que, comme je l'ai déjà dit. Et effectivement, on organise des ateliers en soirée pour les ados et adultes. D'initiation à la science, simplement passer 2 heures en toute décontraction. Il ne s'agit pas du tout d'être un spécialiste, c'est fait pour les néophytes, pour les cancres, pour les gens qui ont simplement une curiosité, un intérêt et qui viennent passer là 2 heures à leur parler de lumière ou du robot Timio ou encore d'électronique et de soudure en toute simplicité.
Et ça s'appelle à gauche, au fond du...
Au fond, à côté du radiateur.
Ah oui. D'où les cancres.
D'où les cancres.
Ouais, c'est bien, je sens que je trouverai ma place là-bas dedans. Emmanuel Giacometti, j'imagine que vous êtes déjà en train de concocter la prochaine exposition.
Oui, absolument, absolument. Cette exposition va démarrer au mois de novembre. Ce sera le fruit d'une collaboration avec, tenez-vous bien, pour le peu, le Château de Chillon.
Ah oui?
Une exposition sur les inventions médiévales, les inventions qui ont été inventées, soit répandues au Moyen-Âge. Cette exposition sera présentée chez nous durant une année et ensuite elle sera présentée au Château de Chillon et donc c'est le fruit d'une collaboration avec cette institution.
C'est intéressant parce qu'on a souvent l'impression que le Moyen-Âge était une sombre période où rien ne s'est passé, si ce n'est une espèce de gros recul sur les connaissances et tout à coup on se rend compte qu'il y a des choses
la source, le point de départ de cette exposition. Et si c'est vrai que le Moyen-Âge n'a pas été la période la plus riche en matière d'avancées scientifiques et techniques, néanmoins, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées.
Qu'est-ce qu'on a inventé, par exemple, au Moyen-Âge ?
Oh, je ne vais quand même pas vous dévoiler tout maintenant. Vous attendrez le mois de novembre, ce n'est pas si loin. Un petit exemple ? Alors, vous savez ce qui a sonné la fin du Moyen-Âge, quand même ? L'invention de l'imprimerie, n'est-ce pas? Puisque c'est ça qui a permis après la diffusion des connaissances et du savoir et qui a démarré une autre époque. Donc on va parler notamment de ça dans l'exposition.
Alors on se réjouit de voir tout cela donc à partir du mois de novembre. Merci beaucoup Emmanuelle Giacometti, directrice de l'espace des inventions qui se situe donc dans le parc de la Vallée de la Jeunesse à Lausanne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et votre équipe pour cette nouvelle année?
Écoutez, que tout continue comme ça et qu'on arrive enfin à réaliser notre petit agrandissement qui est prévu très prochainement.
D'accord, vous allez grandir.
Alors, je dis petit. Un petit agrandissement sur le site même de la Vallée de la Jeunesse. Il est prévu qu'on développe un espace pour pouvoir faire plus d'ateliers de médiation et pour les grands, pour les petits, pour les classes.
Un autre vaisseau spatial ?
Alors, une annexe au vaisseau spatial, plutôt, qu'un autre.
C'est ouvert tous les jours ?
Sauf le lundi, tous les jours du mardi au samedi de 14h à 18h, dimanche et jours fériés, 10h, 18h.
Et puis à noter que vous serez aussi sur nos ondes, les ondes de la première, le 26 janvier prochain dans la ligne de cœur qui se passera justement en direct de l'espace des inventions. Vous accueillerez Jean-Marc Richard à vos côtés, émission consacrée à l'inventivité et à la créativité. En l'occurrence, vous aurez certainement des choses à dire de qualité qu'on vous reconnaît volontiers. Emmanuel Giacometti, merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être passé par CQFD ce matin et vous répondiez à l'invitation d'Ouma Camis.
CQFD sur la première.